Vous écoutez RTL.
14h03, oui d'accord, bientôt 4. La curiosité est un vilain défaut aussi, Denis Bonnec. Je sais que vous êtes là en pleine forme avec Thomas Hugues. Et donc, comme promis, direction Versailles.
Ah, Versailles, son château, son palais des glaces et son jardin à la française. Bon, ça c'est pour la face A. Face B, c'était plutôt maîtresse cachée, jalousie, impuissance, orgie, filtres aphrodisiaques et poison. C'est le Versailles érotique de Louis XIV à Louis XVI qu'on vous fera découvrir dans la seconde partie de l'émission.
Bon bah du coup, tout de suite, fais pas ta sainte ni touche, je vais te faire découvrir la terre promise.
La curiosité d'un vilain défaut.
Et les expressions religieuses au menu de notre curiosité, vous allez comprendre. Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes, on est ensemble jusqu'à 15h pour faire le plein, comme tous les jours, de connaissances et de bonne humeur sur RTL. Salut Sidonie.
Salut Thomas, bonjour à tous, cette émission adore varier les plaisirs. Ces dernières semaines, on a par exemple découvert le destin du patron d'Amazon, on a partagé le quotidien des premiers humains, on a raconté tout ce que les satellites changent dans notre vie quotidienne, on a parlé du feu, des licornes, des templiers, arrêtez-moi sinon...
Et aujourd'hui on déguste les délices de notre langue française. Bonjour Marie-Dominique Poré.
Bonjour.
Heureux de vous retrouver, vous êtes agrégée de grammaire, prof de grec, de latin. Vous avez recensé une centaine d'expressions religieuses pour un livre qui est publié chez First. Je commence par le démon de midi, ce qui explique les démons de minuit qui ont servi d'ouverture à cette émission. Le démon de midi, ce mal qui touche parfois les hommes à la cinquantaine, il paraît. Ils veulent se prouver qu'ils peuvent toujours séduire. Mais alors, ok, mais quel lien avec la religion?
Alors le lien avec la religion, c'est qu'en fait ce serait une erreur de traduction de la Bible. Oui. Le passage en fait de l'hébreu au grec par la Septante qui aurait été mal interprété, et ce démon de midi, c'était au départ les divers fléaux qui pouvaient guetter l'humain à une certaine période de sa vie, soit dans la nuit, soit le midi. Mais il n'y avait pas la moindre connotation sexuelle au départ.
Donc c'est le temps qui a transformé l'expression. Alors c'est ça, les humains se le sont appropriés.
C'est à cause de l'expression le démon du jeu qui est apparu au XVIIe siècle que ce transfert s'est fait et que du démon du jeu on est passé au démon de midi. Et c'est l'écrivain Paul Bourget qui va en 1914 donner le titre à un de ses romans de cette idée. Et c'est pour cela qu'on dit maintenant le démon de midi ou de minuit.
Donc quand on dit le démon de midi, sans le savoir, on cite, mais alors de très 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 loin, la Bible.
Tout à fait.
Marie-Dominique Poré, il y a une autre expression dont on ne soupçonne pas l'origine religieuse, c'est crier sur les toits. Elle viendrait des évangiles. Pourquoi ?
Oui, elle vient de l'évangile de saint Matthieu, parce que Jésus-Christ aurait dit dans cet évangile « Ce que je vous dis dans les ténèbres, c'est à vous de le répandre le jour. » Et c'est une forme de prosélytisme qu'il suggérait en fait à tous ses disciples. Et sur ce, en plus, il s'est avéré que cette divulgation était faite déjà, on va dire presque, architecturalement parlant, puisque dans les établissements et dans les toits orientaux, très souvent, les gens vivaient dehors, s'interpellaient d'une terrasse à l'autre.
Ah, parce que c'est des toits terrasses.
Voilà. C'est que cette espèce de rumeur, de bruit qu'il fallait faire, cette divulgation de nouvelles, passer comme ça, d'où la naissance de ce qu'on appelait le téléphone arabe, et qui pourrait peut-être maintenant correspondre à nos réseaux sociaux, mais de très 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 loin par rapport à cette parole du Christ dans l'évangile de saint Matthieu.
Autre surprise, Marie-Dominique Poré, si je veux prendre un congé sabbatique.
Ah bon ?
Déjà, on va rappeler ce
vous
que c'est.
Vous allez me lâcher.
C'est quoi un congé sabbatique ?
Alors, c'est un arrêt de travail, c'est un petit break dans sa vie, pour diverses raisons, soit parce qu'on est fatigué, soit parce qu'on a d'autres projets.
Ouais. Et souvent, ça dure un an maintenant.
Alors on va jusqu'à un an. Ça peut aller jusqu'à une année de césure entière.
On dit une année sabbatique.
Voilà,
je suis tombé de... Ah, ça faisait longtemps que j'avais pas dit que je suis tombé de la chaise. C'était une de mes expressions favorites.
Je sais pas dans quel état sont vos fesses, mais vous tombez souvent quand même de la chaise.
Comme je me fais vanner à longueur de temps quand je le dis, j'ai essayé de me réfréner, mais là, c'est sorti tout seul. Et donc, j'ai vraiment été surpris. Quand je dis congé sabbatique, je fais référence à quelle religion ?
Alors, en fait, vous faites référence à la religion hébraïque.
Oui.
Puisque c'est une fête religieuse qui était dans la loi de Moïse, qu'on trouve dans le texte de l'Exode. Et c'est le Shabbat.
Le Shabbat.
C'est le Shabbat qui était ce repos sacré après les 6 jours de travail de la semaine. C'était un repos imposé, bien mérité pour tout le monde, les hommes, les femmes, les animaux, même la terre, qui restait en jachère, sans travail. Et en fait,
donc on devrait dire une année sabbatique.
On devrait dire une année sabbatique. Oui, oui. Et puis en plus, ça correspond quand même chez nous, quand on y pense, dans la religion catholique, au jour dit dominical, qui est le jour du Seigneur. Hein. Voilà.
Marie de Dominique, pourrait, si je mets quelqu'un à l'index. D'ailleurs, vous nous rappelez le sens de cette expression avant d'en dévoiler l'origine.
Religieuse. Oui. Mais d'abord l'étymologie.
Alors, l'étymologie.
L'étymologie vient du verbe deiknumi, qui veut dire montrer du doigt. Mm. D'où le nom d'un de nos doigts qu'on appelle l'index. Hein. Mm. Et donc, c'était, quand on mettait quelque chose à l'index, c'est parce qu'on voulait attirer l'attention sur un point négatif. Et c'est souvent l'Église catholique qui a fait cela pour montrer du doigt et donc prohiber les ouvrages qui selon elle, allaient contre ou transgresser, on va dire, la religion.
Ça a à voir avec l'Inquisition ?
Ça a été mené par Philippe II d'Espagne sous la forme d'une Inquisition religieuse, ou même par tous les papes de Rome. Et c'est une sorte, l'index devient avec un I majuscule, une liste de textes qui sont en fait défendus au nom de la morale et de la foi chrétienne.
C'est la curiosité, c'est jusqu'à 15h sur RTL. Restez avec nous, on a encore plein d'expressions religieuses à découvrir, notamment celles qui sont liées au dernier jour du Christ. Et alors promis, ce sera pas un calvaire.
14h-15h, RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Aujourd'hui, on est en cours dans la curiosité et on adore ça. Notre prof est super, c'est une prof de latin grec au lycée La Bruyère à Versailles. Marie-Dominique Poré, grâce à vous, on découvre l'origine des expressions religieuses et on découvre qu'elles sont très nombreuses dans notre vocabulaire, dans notre langage, et certaines sont directement liées au dernier jour du Christ. Par exemple, vivre un calvaire. D'où vient ce mot ?
Alors, le mot calvaire vient d'un mot latin au départ qui s'appelle calvaria, qui désignait un crâne. C'est parce que ça désignait en fait le lieu où on déposait les corps de tous les condamnés à mort que l'on avait crucifiés.
Et donc c'est d'abord un lieu.
C'est un lieu du crâne.
À Jérusalem.
Voilà, c'est un lieu à Jérusalem qui se trouvait sur la colline à l'extérieur de Jérusalem.
Alors pour ceux qui n'ont pas eu la chance ou pas d'aller au catéchisme, c'était quoi le calvaire de Jésus ?
Alors le calvaire de Jésus, malheureusement, c'est lorsqu'il a été condamné par le roi Hérode. Mmh. Le roi Hérode avait possibilité de le gracier ou non face à Barabbas, le méchant, entre guillemets. Mmh. Et donc il a décidé, comme il n'avait pas trop de preuves, et il a laissé choisir au peuple. Le peuple vindicatif a choisi plutôt de tuer le Christ, et donc il lui a imposé cette espèce de grand, de long parcours qu'il a dû faire avec une croix sur l'épaule.
Avec des étapes, des
stations. Avec plusieurs étapes, voilà, qui sont au nombre de 14.
Quand on visite des églises, même si on n'est pas croyant,
on s'aperçoit qu'il y a des stations auxquelles on est censé s'arrêter. Elles sont toutes dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et ça reprend les différentes stations, c'est-à-dire les différents épisodes, en fait. C'est presque une bande dessinée de l'époque, avec les étapes. Le Christ prend sa croix, le Christ s'arrête, le Christ est nourri, le Christ est arrosé, le Christ reprend sa route, le Christ ensuite va, etc. Et ça va comme ça jusqu'à 14 stations, 14 tableaux. Alors on les représente effectivement dans les églises.
Alors on ne suit pas du tout la chronologie, que tous ceux qui sont allés au catéchisme ne nous en veuillent pas. Quelques jours auparavant, Jésus réunit ses apôtres et c'est le début d'une superstition. Ça, je pense que beaucoup de nos auditeurs la connaissent. Laquelle ?
Le fameux chiffre 13.
Ah oui.
Lors du fameux dernier repas qu'on appelle la cène, C-E-N-A. Enfin, la cène, pardon, en français, C-E-N-E, qui vient du mot latin cena, qui veut dire le dîner. Mmh. Parce qu'il a réuni tous ses apôtres et donc ils sont effectivement 12 apôtres, plus le 13e qui va arriver et qui est effectivement le méchant Judas, Judas l'Iscariote. Donc depuis, ce chiffre 13 est devenu fatidique parce que c'est le chiffre par lequel le Christ a été finalement condamné. Et c'est ce qui a nourri chez certaines personnes ce qu'on appelle une triskaïdécaphobie.
Oula.
Triskaïdécaphobie, ce qui veut dire 13e, peur du 13e jour.
Triskaïdécaphobie,
ça veut dire 13. Ouais. Et phobie, c'est la peur du 13.
J'ai appris un mot 13. Grâce à vous. Triskaïdécaphobie,
donc c'est une forme de superstition qui est là chez nous. La superstition, elle est parfois prise dans le bon sens, c'est-à-dire que lorsqu'on obtient 13 huîtres à la douzaine, on est bien content. Mais en revanche, il faut savoir que la 13e lettre quand même de l'alphabet hébreu, c'est le mot même, qui veut dire la mort. Et que la 13e carte du jeu du tarot s'appelle également la mort. En revanche, dans les côtés positifs, on essaie dans nos sociétés de nous pousser à tirer tous des gros lots en allant chercher notre
billet
de loto le vendredi 13.
Marie-Dominique Poré, autour de cette table, il y avait 13 apôtres, dont Judas. Ce prénom va devenir synonyme de traîtrise.
Oui.
Pour quelle raison ?
Parce que pour malheureusement uniquement 30 deniers, il a donné le nom de Jésus. C'est-à-dire qu'en fait, il n'a pas directement parlé, mais quand les soldats sont arrivés, ne sachant pas qui était le Christ, il les a indirectement, il a fait signe, il a montré qui il était. Et donc, il a trahi son maître, il a trahi le Christ.
Une autre expression autour de ce prénom Judas, c'est le baiser de Judas. Ça correspond à quel moment de la traîtrise ?
C'est un baiser de traître. C'est parce que quand il l'embrasse, en fait, il commet cette faute impardonnable dont il aura après du remords, qu'il faudra qu'il va se pendre. Enfin, c'est un baiser de faux frères, de faux amis.
De faux cul.
Oui, on peut aller jusque-là, on peut aller jusque-là.
Parce
oui.
qu'il désigne Jésus il en désigne l'embrassant, Jésus. C'est ça?
En l'embrassant, d'accord. Celui qui l'embrasse, c'est le Christ, ouais. Et comme ça, ils savent qui est le Christ. Voilà.
Jésus qui va ensuite boire le calice jusqu'à la lie. Alors d'abord, le mot calice, d'où vient-il?
Alors le mot calice, c'est un mot qui vient du latin, qui vient du mot calix, calicis, qui veut dire une coupe. Étymologiquement, donc une coupe en métal précieux, qui en principe que l'on retrouve dans l'office, dans la liturgie catholique, puisqu'au moment de l'offertoire, on célèbre le corps et le sang du Christ, et donc le prêtre prend l'hostie pour le pain et lève le calice pour signaler le sang du Christ.
Alors ça veut dire quoi l'expression? Ça veut dire subir une épreuve jusqu'à son terme, c'est ça?
Ça veut dire prendre une coupe amère. Enfin, c'est le Christ qui volontairement a pris cette coupe amère pour montrer qu'il allait jusqu'au bout de sa mission et il va le boire jusqu'à la lie, c'est-à-dire jusqu'au bout, pour montrer qu'il accepte complètement de finir son œuvre. Œuvre d'homme.
Donc c'est quand il sait qu'il va être arrêté, il va condamné. Être arrêté.
Quand il a compris qu'il était arrêté, il termine cette coupe, sachant qu'il va jusqu'au bout du bout, voilà, et qu'il va ainsi devenir le rédempteur des fautes du monde entier.
Il y a un homme, un Romain, qui joue un rôle essentiel pour le destin de Jésus, c'est Ponce Pilate. On lui doit plusieurs expressions, par exemple, je m'en lave les mains, vous nous rappelez, et à la fois qui est Ponce Pilate, et que symbolise cette phrase?
Alors, Ponce Pilate, c'était le grand prêtre, en fait, qui s'occupait des affaires religieuses et qui avait été convoqué pour choisir justement entre le Christ et le Barabbas dont je parlais tout à l'heure.
Est-ce que c'était le représentant du pouvoir romain
Oui, on peut
Jérusalem,
dire que c'était
un certain
pouvoir
façon,
romain. Ouais. Voilà, et donc c'est l'évangile de Saint Matthieu qui raconte cela. Il y avait une coutume qui faisait que lorsqu'on n'était pas trop sûr de soi, c'était une façon de se décharger. Et donc, il se lavait les mains dans de l'eau pour dire « je suis innocent du mal que je vais faire ». Il se dédouanait, en fait, et il prenait à témoin le peuple. C'est une lâcheté qui fut celle du personnage.
Vade retro, Satanas, c'est le titre de votre livre publié aux éditions First. On continue de découvrir ces expressions religieuses qu'on utilise régulièrement. Avenir, Salam Alek, Ramdam et Nirvana. Restez avec nous sur RTL, les curieux.
RTL Matin, Yves Calvi.
Chaque matin, François Langlais est à nos côtés pour vous faire comprendre l'économie.
L'Anglais Co.
Le PIB, ça n'est jamais qu'une photographie d'un an d'économie française.
Rendre l'économie concrète et accessible, c'est le défi quotidien de François Langlais.
Dès que l'emploi ou le pouvoir d'achat augmente, notre demande à l'étranger progresse.
Merci François, on vous retrouve chaque matin à 7h40 sur RTL.
RTL. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues. La curiosité est un vilain défaut.
Comme Bérégo voit, aussi vite que Sénat, je veux atteindre le Nirvana.
Ramdam, Zen, Nirvana, quelques-uns des mots, quelques-unes des expressions religieuses qui sont au menu de notre curiosité
et
sur RTL.
Et dans la pop musique.
Et oui, c'est ça qui est génial, c'est partout et surtout dans le cours et dans la science et dans les connaissances de notre invité Marie-Dominique Poré, qui est agrégée de grammaire, prof de grec et de latin dans un lycée en région parisienne. Alors on commence, tiens, dans l'ordre avec Ramdam. C'est quoi ce mot? D'où vient-il?
Alors le mot Ramdam est la forme syncopée du mot Ramadan.
Ah oui.
Voilà, il fallait juste enlever une lettre. Mmh. C'est une période d'abstinence pendant laquelle, pour les musulmans, qui se faisait entre le lever du soleil et le coucher du soleil.
Et alors quel est le rapport avec le bruit? Parce que faire du ramdam, c'est faire du bruit.
Voilà, faire du bruit, enfin même du tapage. Oui. C'est que le soir, lorsqu'il pouvait s'éclater à la fin de la journée, il festoyait, il faisait du bruit, il s'amusait.
C'est la rupture du ramadan,
c'est la fin du ramadan, donc ça marque la fin. Un peu à la manière, bon, toute proportion gardée, vous savez, de l'expression qu'a reprise Nagui quand il dit « faites du bruit ».
C'est vrai.
Moi, ça m'a fait considérablement penser.
Et les Salam Alek, est-ce qu'ils sont aussi d'origine arabe?
Oui, c'est tout à fait. C'est une formule de politesse qui veut dire étymologiquement plaisir des oreilles et qui revient au nom. Ça veut dire que le nom de Salam soit, parce que Salam, c'est l'autre nom de Allah.
Mais alors, attendez, c'est quoi? C'est salam alaikum, alaikum salam, c'est
voilà,
ça?
C'est ça, c'est salam alaikum, ça veut dire que le nom de Salam soit avec vous. Ouais. Et c'est la réponse après qui est faite. Mais ça vient de l'hébreu. Parce que shalom, en hébreu, veut dire que la paix soit avec vous, pardon.
Et non, c'est moi qui m'excuse. Ça veut dire que Salam Alek, aujourd'hui, c'est un sens péjoratif, Salam Alek. Pour quelle raison?
Parce que c'était au départ un rite de salutation religieux. Mais comme on y voit un peu trop de révérence qui semble un petit peu exagérée, trop cérémoniale, trop obséquieux, trop vrai pour être honnête. Oui, alors donc on a plutôt tendance maintenant à prendre un sens péjoratif.
Par exemple, quand je dis je m'excuse, alors qu'on dit je vous prie de m'excuser, mais bon, voilà, là j'ai fait des salamalek là.
C'est une expression vraiment religieuse, mais qui à cause de ce côté-là, parce que c'est vraiment un petit peu trop, et que Dieu soit avec toi, et qu'il soit avec toi, et qu'il soit avec toi,
et
que c'est à cause de ça.
Oui, alors que c'était aussi un signe d'avancée d'une certaine façon, de politesse.
C'est
ce qu'on appelle la communication fatigue aussi, c'est le plaisir de parler et d'échanger en fait, tout simplement, même sans rien dire.
Mais c'est vrai que ça a pris une connotation absolument péjorative.
Alors on continue de découvrir ces expressions religieuses. Vade retro Satanas, c'est le titre de votre livre. Il y en a pour toute religion. Où est-ce qu'il faut aller pour atteindre le nirvana ?
Alors, le mot nirvana est un mot qui vient du mot nibbana dans une langue indienne et qui désigne en fait le dernier stade de la contemplation. Il s'agit de s'affranchir de tous les états qui pourraient entraver cette évasion de la douleur pour atteindre à la paix intérieure. Donc, il faut se débarrasser du travail, de la richesse, de l'illusion, de l'ignorance si on veut atteindre le bonheur.
Eh bien, je vous quitte. Salut. Débarrasser du travail.
Voilà.
Bon, c'est du bonheur ce travail.
Mais bien sûr, je plaisante.
Alors, c'est tout à fait la reprise de l'ataraxie chez les Grecs. De la philosophie stoïcienne. D'essayer de se débarrasser de toutes ces émotions. Et en fait, cette méditation permet d'atteindre ce que j'ai appelé la zen attitude, bien sûr, au zen. Et le zen, c'est un mot sanskrit, du sanskrit que l'on doit à un Bouddha, le Bouddha Shakyamuni. Et c'est à lui aussi qu'on doit, au 6e siècle avant Jésus-Christ, la fameuse posture qui est la posture du yoga et qui se dit dhyana. Et qui est la reprise de Zen.
Marie-Dominique Poré, est-ce que vous parlez souvent de religion à vos élèves ?
Alors, je n'en parle pas souvent, simplement je leur dis que maîtriser une culture à la fois humaniste et biblique peut être très important pour leur culture générale.
J'ai commencé par la Sainte Nitouche, on va terminer avec. Alors, c'est quoi la Sainte Nitouche ? Ça vient d'où cette expression ? Fais pas ta Sainte Nitouche.
Alors, Sainte Nitouche, ça veut dire. Le mot Nitouche est la transcription de n'y touche pas.
Oui.
Ne me touche pas.
Bah oui.
Voilà. Ne me touche surtout pas. Et c'était une façon un peu prude parfois qu'avaient les jeunes femmes de refuser les avances des hommes à leur égard.
Bon, surtout restez avec nous sur RTL parce qu'on a encore la position du missionnaire à explorer, si j'ose dire.
Ah, d'accord. Et puis juste après, on va s'inviter à la cour de Versailles où on devait vraiment connaître aussi la position du missionnaire pour parler d'amour, d'amant et de complot. À tout de suite, les curieux.
RTL.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, de 14h à 15h.
La curiosité est un vilain défaut.
Et sur RTL, on revisite la langue française grâce à notre invité Marie-Dominique Poré, la langue française et ses expressions d'origine religieuse.
Et ses petits savons, parfois,
c'est
ça fait du bien.
C'est pas sympa de se moquer de ses camarades quand ils savent. Comme promis, on se concentre maintenant sur la position du missionnaire.
C'est ça qui vous rendait fébrile.
Ben oui, forcément. Comment la religion qui parle de sexe, moi j'ai toujours trouvé ça un peu improbable. Comment cette expression a vu le jour, Marie-Dominique ?
Je me doutais que cette expression pouvait vous intéresser.
Ben oui.
En fait, les missionnaires, comme chacun le sait, ce sont les gens qu'on a envoyés à l'autre bout du monde pour essayer d'évangéliser les peuples. Donc ce sont les envoyés de Dieu. Et ils donnaient des conseils aux indigènes. Ils leur disaient que, comme dans la religion catholique, l'acte sexuel n'est fait d'un autre but officiel que la reproduction, ils trouvaient un moyen d'arranger, de choisir l'attitude la plus adéquate pour que l'acte de création soit total. Et donc, la position à l'horizontale, je vous passerai d'autres détails, permettait, soi-disant, au sperme de mieux s'acheminer petit à petit.
D'accord.
Et que cela donnait un meilleur angle de pénétration. Donc, cela s'appelle aussi la position papa-maman au bout d'un certain nombre d'années. Mais enfin, on s'est dit que si l'Église le dit, pourquoi pas. Hein. Oui. En tous les cas, il n'y a pas de preuve scientifique, malheureusement.
Non, vous pouvez tenter toutes les autres positions, ça marche aussi.
Puisqu'on parle de péché, d'où vient l'expression péché mignon ?
Alors, un péché mignon, c'est le plus gentil des péchés. En fait, il existe, vous savez, sept péchés dans la religion catholique, hein, qu'on nomme avec les étymologies, sous la forme de saligia, hein, bon, avec orgueil, avarice, etc. Voilà. Et alors, le péché mignon, c'est un oxymore en soi, parce qu'un péché, à principe, c'est plutôt mauvais, c'est le péché de la chair. Mmh. Et mignon, ça veut dire qu'on l'aime bien, qu'on l'apprécie, c'est affectueux. Donc, c'est un péché positif, un petit peu à la manière de ce n'est pas un péché que de pécher d'un petit péché.
La gourmandise, et,
voilà,
alors.
Moi, j'appelle ça la gourmandise. Je me suis toujours octroyé ce péché très facilement. Je le revendique, c'est se faire un petit plaisir sans se culpabiliser. À condition bien sûr qu'on ne fasse de tort à personne.
Et ben voilà, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup Marie-Dominique Poré. Vade retro Satanas et 99 autres expressions religieuses publiées chez First.
À très bientôt.
Vous écoutez RTL.